Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro pour la deuxième émission de cette nouvelle année 2022, bien sûr. Fulgence au micro, Nicolas à la technique. Aujourd'hui, c'est mercredi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons notre chroniqueur de plein air et du loisir, Stéphane Beauté, qui sera avec nous juste après la première pièce musicale. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir... Voilà, un monsieur qui va nous parler de quelque chose de très, 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 très important. Oui, Dr. Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Voilà, ce sera en deuxième partie d'émission. Voilà, pour chacun de nous concernés de près ou de loin, ça, il faut le dire. Ça, sincèrement, il ne faut pas se voiler la face. Il est qui est mieux placé que lui pour nous parler de ça? Voilà, c'est son domaine. Il va nous parler de ça en deuxième partie d'émission. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude, Nicolas? On va en musique. On démarre avec Morgan Wallen, Sand in My Boot.
She asked me where I was from. I said somewhere you never been to. Little town outside of Knoxville. Heading by some dogwood trees. She tried talking with my accent. We held hands and waded into that blue water. She left the flip-flops by my red wings on the beach. Even now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado. Like a heartbroken desperado. Something about the way she kissed me tells me she loved Eastern Tennessee. Yeah, but all I brought back with me was some sand in my boots. I said, let's go shoot tequila. So we walked back to that beach bar. And she said, don't cowboys drink whiskey. So we drank bottom shelf. She said, damn, that sky looks perfect. And I said, girl, you never seen stars like the ones back home. And she said, maybe I should see them for myself. Yeah, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado. Like a heartbroken desperado. Headed right back to my roots. And something about the way she loved Eastern Tennessee. Yeah, but all I brought back with me was some sand in my boots. Oh, I said, meet me in the morning. And she told me I was crazy. Thought that maybe she'd show up. Oh, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado. Like a heartbroken desperado. Headed right back to my roots. Something about the way she kissed me tells me she loves Eastern Tennessee. Some sand in my boots. Yeah, but all I brought back with me was some sand in my boots.
Morgan Wallen and Sand in My Boots. Voilà, c'est du country pur. Voilà notre chroniqueur de plein air et de loisirs, Stéphane Baudry, est déjà au bout du fil. Alors, c'est sa première de l'année 2022. Bonjour Stéphane et bonne année à toi.
Bonjour Fulgence, merci, bonne année à toi aussi.
Oui, content de te réentendre.
Aussi.
J'espère que tu t'es bien reposé. Hein.
Oh oui, ça a été magnifique.
Oh oui. Tant mieux alors, tant mieux. Je suis content pour toi et de savoir que tu vas bien. Je te souhaite vraiment, voilà, les petits plaisirs de la vie, les petites joies de la vie, les choses les plus simples, ouais, les petites choses de la vie. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé, de santé, de santé, de santé, de santé.
Oui, c'est ce qu'on souhaite tous présentement, hein,
ah,
en
oui.
ce moment, la
oui,
santé.
C'est ça.
Mmh. Ouais.
Alors, tu nous as concocté quelque chose sur le parc régional de la Rivière du Nord.
Oui,
la rivière du Nord. Oui, moi quand j'ai reçu, ton document, j'ai dit, mais oh, il va me parler des canards. Et puis, j'adore les canards.
Oui. Il y a beaucoup de canards.
Il y a beaucoup de canards là-bas. Allez, je te laisse aller, Stéphane.
Mais la rivière du Nord, c'est souvent, elle est parfois tumultueuse et elle traverse beaucoup d'agglomérations,
oui.
ce qui en fait un moteur économique important pour les moulins, les scieries, le transport des biots de bois.
Oui.
Et même, il y avait une centrale hydroélectrique sur la rivière entre 1924 et 1974. Alors, c'est vraiment...
Ça date pas d'aujourd'hui, hein?
Non, effectivement. Il faut penser que déjà, en 1888, Saint-Jérôme avait de l'électricité grâce aux usines hydroélectriques qu'il y avait...
Attends, en 1800, combien?
1888, il y avait déjà de l'électricité, d'éclairage à Saint-Jérôme, mais c'était plus ou moins stable.
Mmh.
Alors, c'est pour ça parce qu'on bâtit vraiment une centrale en bonne et due forme.
OK.
Mais qui a été incendiée en 1974. Mais elle a quand même duré 50 ans. Puis, l'endroit...
Alors, qui a été incendié, c'est comme si quelqu'un qui a mis le feu ou bien a eu un incendie comme ça?
C'était de l'électricité. On s'entend que ce n'était pas les mêmes installations que maintenant, alors c'est différent.
D'accord.
Puis, avec l'implantation d'aéroport international de Mirabel,
oui.
Il y a eu beaucoup d'intérêt pour développer l'attrait récréo-touristique de la région.
Oui.
Et comme les chutes Wilson, qui sont dans la rivière du Nord,
oui.
étaient déjà très fréquentés depuis plus d'un siècle par la population locale.
Oui.
Mais l'endroit s'est imposé pour créer un espace vert protégé de Prévost à Saint-Jérôme.
Wow! Qui a eu cette belle idée?
Mais ça a été au départ, c'est ça. Ils ont voulu vraiment faire quelque chose pour le parc,
oui.
pour le coin.
Mmh.
Et c'est en 1977 que le nom Parc de la rivière du Nord lui est donné.
Mmh.
Il y a eu comme un comité qui était pour faire, protéger le parc et s'occuper du parc.
Ouais.
Mais en 1989, c'est la régie intermunicipale qui était formée par Saint-Jérôme.
Oui.
Et dans le temps, c'était aussi les municipalités de Bellefeuille et La Fontaine qui sont maintenant rendues fusionnées à Saint-Jérôme.
Fusionnées à Saint-Jérôme. Ouais, on leur dit merci. À cette époque déjà, d'avoir ces idées comme ça d'espace vert, non, vraiment, c'est...
Oui.
Oui. Oui.
Parce que c'est un endroit magnifique. On parle de 11 sentiers de marche hivernale. Ça part de 200 mètres à 6 kilomètres. C'est vraiment... Puis c'est facile à intermédiaire. Là. C'est quand même assez plat.
Oui.
Et c'est très agréable à marcher parce qu'on marche quand même tout le long de la rivière. C'est 9 sentiers de ski de fond. Dans les mêmes distances, dans le fond, les 9 sentiers sont sur certains des 11 sentiers de marche. Et il y a les 19 sentiers de raquettes, de facile à difficile. C'est quand même un très grand parc pour ces choses-là.
Donc ça veut dire qu'actuellement, en hiver, là, c'est très fréquenté, là.
C'est très fréquenté. Il y a un bon stationnement aussi. Mais c'est vraiment intéressant. Le site web, c'est parc-rivière-du-nord, tout en un mot,
oui.
.ca.
OK. Mmh.
Mmh. Et c'est où? C'est au 750 chemin de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme.
On ne peut pas se tromper.
Oh oui, puis c'est facile, c'est en voiture. On prend la sortie 45 ouest de l'autoroute 15. Alors, c'est juste à côté.
C'est juste à côté,
alors,
oui.
ça se fait très facilement. C'est environ 45 minutes de Montréal.
En moins d'une heure de Montréal.
C'est ça. On prend la 15, on sort, on est rendu.
Ouais.
C'est vraiment comme ça.
Mmh.
Et c'est vraiment, là, comme je disais tantôt, le paradis du canard. Je suis arrivé là. On marchait, on voyait quelques canards sur la route.
Voilà, pourquoi est-ce que tu nous le conseilles, ce parc-là?
Non, mais c'est spécial.
J'espère que
c'est... J'ai vu des enfants qui étaient entourés de canards et étaient au paradis, on va
c'est
dire, pas... ils étaient aux oiseaux.
Alors, tu vas me pousser à aller faire une petite balade là-bas en été, là.
Il y a des étangs, il y a un étang, là, et c'est plein de canards partout. On peut acheter un sac de nourriture au pavillon. C'est vraiment parce que c'est sûr qu'ils ne mangent pas n'importe quoi.
Ah, pour les nourrir,
c'est
autorisé.
Oui, c'est autorisé, oui.
Ah, mais d'accord, c'est permis.
Ils savent, les canards le savent.
OK.
Et il y a aussi des dindes sauvages. Et c'est impressionnant, une dinde. C'est gros. Ils se promènent en groupe. Et c'était vraiment, vraiment quelque chose à voir, ça. J'avais jamais vu ça en direct.
Des dindes sauvages qui viennent jusque-là?
Oui, les laines sauvages se promènent comme ça, sur le bord des étangs, sur le bord de la rivière.
Interdiction de les chasser. Attention, je dis oui. Ça aux chasseurs. Faut pas aller avec ton fusil là-bas dans le parc et puis commencer à tirer sur les laines sauvages. Ok, je te laisse continuer. Ouais, vraiment.
Je suis allé là juste avant le jour de l'an. C'était comme, ok, c'est toutes des dindes autour.
On est. Stéphane Baudry. tu te dis zut, oh, on ne peut pas les chasser. Non.
C'est ça, exactement.
Voilà.
On ne peut pas non plus en accrocher une puis l'amener, ramener avec nous en voiture.
Ah non.
Il y a le sentier des arbres, c'est très beau.
Oui.
Ça se promène et c'est. Il y a des sculptures tout le long du sentier. C'est des sculptures faites en bois de rivage. Donc, c'est du bois qu'ils ont ramassé comme ça sur le bord de la rivière.
Mmh.
Et ça relate les pans d'histoire du coin. Alors, on va voir des gens qui s'occupaient des billots de bois. On va voir même une sculpture du frère Marie-Victorin.
Oui.
Parce que c'est un endroit où est-ce qu'il a appris la botanique et tout ça avant d'aller fonder le jardin botanique.
Mmh.
Alors, c'est vraiment... Il y a une riche histoire de là-bas. Alors, c'est ça. Les sculptures sont là pour ça. Des eaux tumultueuses, moi j'adore l'eau. Il y a des chutes aussi, les chutes Wilson. C'est vraiment impressionnant à voir, c'est pas gelé.
J'adore les chutes. J'adore les chutes en général.
Ouais.
Quand je vois des chutes d'eau, ça me rappelle toujours dans mon enfance. Quoi. J'adore les chutes. J'ai toujours été fasciné par les chutes d'eau. Ouais.
C'est intéressant avec le sentier parce qu'on se promène le long de rivière et il y a des très, très beaux points de vue. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont mis un peu partout des bancs ou des terres pique-nique où on peut s'installer et on voit, disons, on est en haut d'une falaise et on voit la rivière passer en dessous.
Oui.
C'est vraiment magnifique pour ça.
Okay.
C'est parfait pour le ski et la raquette, même que plusieurs sentiers finissent par croiser le parc linéaire du Train du Nord. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font du ski là. On s'entend que c'est un parc de 234 kilomètres.
Ouais, 234 kilomètres?
Oui, qui emprunte le trajet d'une ancienne voie ferrée entre Bois des Filions et Mont-Laurier.
Attends, pourquoi tu dis ancienne voie ferrée? Pourquoi ils ont supprimé ce petit Train du Nord?
Mais le petit Train du Nord n'existe plus.
Pourquoi qui a pris cette décision? Ouais.
Ah, mais non.
Alors là, vraiment,
c'est...
Pas
c'est... Dans la politique, là.
Ah non, c'est pour savoir. Effectivement, j'ai entendu parler de ça quand j'étais à Val-David.
Oui.
Il passait là aussi, effectivement. J'ai entendu parler de ce petit Train du Nord.
Oui, et puis on peut faire du vélo maintenant l'été. Et l'hiver, on peut faire du ski de fond. Du ski de fond, je dirais traditionnel, même le ski de fond en patin. Là. Alors, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de trajets si on veut là-dessus. Là.
Oui.
Alors, c'est vraiment un très bel endroit aussi pour faire
Stéphane, ouais. Je pense que les futurs élus de la région vont penser au retour de ce petit Train du Nord. Hein. Oui, ils n'ont qu'à penser à ça, parce que ça manque dans cette région-là, sincèrement, il faut le dire.
Ah, c'est sûr.
Ouais.
C'était vraiment quelque chose d'intéressant aussi à cette époque.
Oui. Allez, quelles sont les heures d'ouverture?
C'est de 9h à 17h jusqu'au 15 mai.
Oui.
Ensuite, quand on va arriver vers l'été, le printemps, ça va être de 8h à 18h.
OK.
Incluant les taxes, on achète les laissez-passer sur place, souvent on achète en ligne, mais dans ce cas-ci, c'est sur place. Et c'est 10 $ par adulte et 5 $ pour les enfants. Mais c'est gratuit pour les résidents de Saint-Jérôme jusqu'au 15 mars. Puis aussi les gens qui sont dans la MRC de Rivière-du-Nord, ceux qui sont dans les villages autour, c'est des tarifs réduits. Fait qu'au lieu de, disons, les enfants, au lieu d'être 5 $, c'est 2 $, puis les adultes, c'est 5 $ au lieu de 10 $.
Non, c'est pas.
Pour les gens qui sont dans le coin.
C'est pas, il devait faire gratuit pour les enfants de toutes les familles, seulement les adultes, laisser les adultes payer. Mais ça va, il faut l'entretenir de toutes les façons, le parc. Hein.
Oui, effectivement. C'est que l'hiver aussi, il y a de la glissade. C'est intéressant vraiment pour les enfants. Mais je dirais, les enfants, ce qu'ils aiment le plus, c'est les canards.
Oui. Oh, non, ça, moi aussi. Moi, je suis pas.
Puis, les animaux domestiques sont interdits. J'imagine un chien là-bas, il viendrait fou. Avec justement.
Avec les canards et
les canards.
Et les dindes sauvages.
Oui. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, puis j'ai vraiment trouvé que c'était pas loin de Montréal. Alors, c'est
moins d'une heure de Montréal, c'est clair.
C'est un endroit à découvrir. On peut aller jusqu'à Prévost. En passant, on parle d'environ, quoi, c'est un sentier à peu près 6 km entre les deux, oui, entre Saint-Jérôme et Prévost, le secteur Prévost. Ça se fait quand même bien. Si on décide d'arriver le matin, on part comme ça, ça se fait très, très bien.
OK, OK. Et pour conclure, Stéphane?
Alors, c'est ça, avec tous les canards, on étend la rivière.
Il revient tout pelatier avec tous les canards et les dindes sauvages.
Ouais. Et les sentiers magnifiques.
Oui.
Ce parc-là, ça compte vraiment tous les goûts. Ça s'avère à coup sûr une très belle aventure pour petits et grands.
Oui.
Et comme on l'a dit, vraiment très près de Montréal.
Oui. Merci beaucoup Stéphane, content de te retrouver comme ça, même si tu n'es pas en studio avec moi, c'est toujours un plaisir de t'entendre et puis de me faire découvrir ces différents parcs des différentes régions de la belle province du Québec. Et puis bon reste de semaine et puis on se retrouve le mercredi prochain.
Merci.
Avec une autre découverte, comme tu as toujours su nous surprendre.
Ah oui. J'ai visité de très beaux endroits là, pendant les fêtes.
D'accord. Allez, bonne soirée à toi. Merci.
Bonne soirée, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant
sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant
sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi.
Garou, avec la complicité de Céline Dion, Sous le vent. Voilà, j'ai quelques minutes là pour moi parler d'un sujet. Oui, j'ai quelques minutes, quelques 3 minutes. Nicolas me fait signe là-bas, tu as 3. Merci Nicolas. Voilà, et ouais, je reviens sur le cas, le phénomène Novak Djokovic, le tennis, l'Open d'Australie. Hier, j'en parlais ici, moi-même, je n'étais pas... Pour ceux qui ont écouté l'émission, vous avez senti un peu dans la voix que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on fait exemption médicale à un seul joueur. Et je ne sais pas, bon, ben parce qu'il est le premier actuellement mondial ou bien quoi. Non, les gens ne sont pas du tout d'accord. Les gens ne sont pas d'accord. Et puis, on savait qu'en avril 2020, il avait déjà pris sa décision contre le vaccin. Il disait que lui, il n'allait pas se faire vacciner. Donc, cette dérogation médicale accordée, qui n'a jamais, il n'a jamais communiqué d'ailleurs sur son statut vaccinal. Et on ne sait pas s'il a été vacciné ou pas. On dit, et puis tout d'un coup, il sort un pigeon du chapeau là pour dire j'ai une dérogation, j'ai une exemption médicale vaccinale. Bon, les gens se disent, mais d'où ça vient? Voilà. Et tout le monde est... Il y a des mots que je ne peux pas dire en nom d'ici. Voilà. En Australie, surtout, les gens se disent, mais non, non, vous ne vous foutez pas de nous quand même, là. Voilà, nous, on fait tous les efforts ici pour rester en bonne santé. Et puis, il y a quelqu'un qui a le droit de rentrer ici pour venir même participer à un tournoi sans être vacciné. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et puis, bon, ben, qu'est-ce qu'il a dit? Que les gens ont dit, mais ce serait certainement utile si Novak, si Djokovic pouvait expliquer les conditions dans lesquelles il a demandé et obtenu cette exemption médicale. Bien sûr, déclaré ce mercredi au journaliste, le patron du tennis australien. Craig Talley, également directeur du premier grand chelem de l'année. C'est ça, parce que c'est l'Open d'Australie, c'est le premier grand chelem de l'année. Ça, c'est toujours en janvier. Voilà. Et puis, bon, je l'encourage à parler de cela à la communauté. Nous avons traversé une période difficile, très difficile, au cours des 2 dernières années. Et j'apprécierais certaines réponses à cela, a-t-il ajouté. Je parle de Craig Talley. Ben, bon, ben, oh... Il y a d'autres qui disent, mais aucun traitement de faveur à un seul joueur. Si c'est tous les joueurs ne doivent pas être vaccinés, ok, ils peuvent venir jouer. Tous les joueurs doivent être vaccinés, ils doivent être tous vaccinés. Sinon, pas question de prendre part au Grand Chelem, au tournoi d'Australie. Donc, le patron du tennis australien a toutefois affirmé que le numéro 1 mondial n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur pour obtenir cette dérogation, selon lui. Lors d'un processus supervisé par les autorités australiennes et celle de l'État du Victoria. Ouais. Voilà. 26 joueurs ou membres de leur staff, sur les quelques 3000 attendus en Australie, ont demandé une exemption et seuls quelques-uns d'entre eux l'ont obtenu, a-t-il dévoilé. Toute personne remplissant les conditions a été autorisée à entrer. Il n'y a pas eu de faveur spéciale, il n'y a pas eu de traitement spécial accordé à Novak. Il a indiqué que les deux commissions chargées d'examiner les demandes d'exemption le faisaient sans connaître l'identité des requérants. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors donc, on sait que il est déjà vainqueur de 20 grains. Ouais, voilà, le temps qui m'a été donné, accordé, est déjà fini. Je sais que demain, je vais revenir là. Et puis demain, moi, je n'aime pas bien de revenir. Je sais que Myriam va revenir là-dessus, ça c'est clair. Myriam sera là demain avec nous. On va revenir sur le cas de Djokovic. C'est quand même, je vous le dis, c'est un de mes joueurs de tennis préférés. On va en musique.
Everybody has a choice. And maybe I choose you. Yeah. Cause you're crazy. Match my crazy. You're my Beyonce and I'm your Jay-Z. Even when I'm so mad at you. 1 minute I cast on you. Next minute that is there. I block you, just the one block you. And ask you how was your day like normal. And don't even talk about between the sheets. So sweet, I can't leave. Maybe that is why they say we toxic. Yeah, yeah. We pull out toxic love.
together if that makes us toxic. We don't give up, cause baby, at least we know it's real. It's real. My biggest investment wasn't stocks and apartments.
No, maybe it was you.
All of the pain and the fights and the stress and the sex
mix up together.
Roberts avec la complicité de Ricardo Drew, Taxi Love, The Toxic Love. Merci à l'écoute, c'est la fin de la première partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir le docteur Georges d'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Et tout de suite après la petite faux publicitaire, il sera avec nous. Voilà.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
When you smile, goose pimple for your cheek, cute dimples, your attitude so simple. No. Oh yeah, for your face, no wrinkle everly, beautiful, tenderly, so gentle. No. I'm what you mean. Omo temi, yeah. Oh no, Omo temi. I fall in love with you every day. I fall in love with you so many ways. You de make me de feel like my best day all the time. When I'm with you, everything is okay, baby. Where you the girl now, where me, I wonder for life. Anybody will say they know like you, no, no better thing. Cause when you smile, goose pimples for your cheek, kill dimples, your attitude so simple. For your face, no wrinkle everly, beautiful, tenderly, so gentle. Omo temi, yeah. Omo temi, yeah. Omo temi. So many times I feel more to me. Cause when you smile, goose pimples for your cheek, kill dimples, your attitude so simple. No, oh yeah, for your face, no wrinkle everly, beautiful, tender, so gentle. I know, I'm not to be, yeah, yeah. I'm not to be, yeah.
Flavor Omotemi. Voilà notre invité déjà au bout du fil pour nous parler de l'AQDMD. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Et nous avons le docteur Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Et ceux qui ne le savent pas, c'est une association citoyenne dont, voilà, la mission est d'œuvrer pour assurer que les lois permettent à chaque citoyen de choisir d'obtenir des soins de fin de vie, dont l'aide médicale à mourir, conforme à sa conception personnelle de dignité. Alors, qui est mieux placé que le docteur Georges L'Espérance? Bonjour, docteur L'Espérance.
Oui, bonjour, monsieur Blanc. Merci beaucoup pour la présentation.
Merci.
Merci de l'invitation.
Merci à vous d'avoir le temps de passer nous parler de ça. Parce que là, je vous dis bravo, merci, félicitations aussi pour tout ce que vous avez fait comme travail pour arriver là.
Voilà. Oui, ben, c'est un travail d'équipe. Hein, je ne suis pas le seul. L'association a été fondée en 2007 par Mme Hélène Bolduc, qui a travaillé très fort.
Oui.
Pour faire, avec Mme Francine Lalonde, qui est maintenant décédée, qui était députée.
Paix à son âme,
pour
oui.
Pour faire avancer, oui, exactement. Pour faire avancer les lois, qui, comme vous le savez, ben, a trouvé, est devenue officielle au Québec en 2014.
Oui, 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 oui. Et donc, là, comment est-ce que vous êtes réjoui? À la suite du rapport, je veux dire.
Oui, c'est ça, le rapport sur le comité multipartisan,
oui.
Sur transpartisan, devrais-je dire, sur l'évolution de l'aide médicale à mourir. Ben, c'est un rapport qui d'abord, je dois dire que les travaux des députés ont été très sérieux. Moi, je les ai suivis attentivement.
Oui.
Il y a eu des mémoires qui ont été présentées, puis des entrevues qui ont été faites dans le mois de mai, mois de juin, ainsi qu'au mois d'août et septembre.
Oui.
Et divers experts sont allés donner leur opinion. La grande majorité, je dois dire, la très grande majorité était favorable. Quelques groupes, avec raison, ont émis une certaine réserve de protection, mais c'était tout à fait adéquat. Et je dois dire que le rapport du comité représente... relativement fidèlement, je dirais même très fidèlement, ce qui a été dit dans les divers, ce qui a été écrit dans les divers mémoires et ce qui a été dit dans les diverses entrevues.
Oui.
En gros, ce que la population demande, et là je parle de la population dans des sondages au-delà de 85% des Québécois, demande qu'une personne qui se fait donner un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive, en termes plus clairs, un diagnostic de maladie qui donne une démence, comme l'Alzheimer,
oui.
Pourrait demander, par des directives médicales anticipées, c'est-à-dire à l'avance, d'obtenir l'aide médicale à mourir en fonction de certaines balises, et bien sûr, lorsque la personne aura décidé elle-même, quand je serai rendu à cette étape-là de ma vie, par exemple, lorsque je ne pourrai plus m'occuper de moi-même pour les soins de base, d'obtenir l'aide médicale à mourir. Comme vous le savez, un des critères les plus importants, sinon le critère le plus important pour obtenir l'aide médicale à mourir, c'est que le patient doit avoir sa pleine aptitude à décider pour lui-même, donc être bien conscient.
Oui.
C'est pour ça qu'on ne peut pas donner l'aide médicale à mourir à des patients qui sont en état végétatif ou qui sont en coma, etc. La première, comme je vous dis, la plus importante, le plus important critère, c'est que la personne demande l'aide médicale à mourir pour elle-même et doit donc être apte. Donc, les personnes qui ont une pathologie qui donne une démence, on n'aime pas tellement le mot démence, mais c'est plus court que pathologie neurodégénérative cognitive.
Oui.
Les personnes qui ont ce type de diagnostic, on sait que l'évolution se fait sur quelques années. Donc, à partir du moment où la personne est apte à prendre une décision pour elle-même, elle pourrait, si le projet de loi et une loi vont dans ce sens-là, ce que l'on demande tous. Donc, cette personne pourrait dire, à un moment donné de mon évolution, je demande à une tierce personne en qui j'ai parfaitement confiance,
oui,
de dire à l'équipe traitante, ben voici mon père, ma mère, la personne dont je m'occupe, est arrivée là dans l'étape, dans son étape, dans son suivi de sa maladie et désire avoir l'aide médicale à mourir. Et à ce moment-là, l'équipe soignante vérifiera si effectivement la personne en est arrivée à cette étape-là et donc pourra donner le dernier soin, donner l'aide médicale à mourir, même si la personne n'est plus apte pour elle-même à ce moment-là à donner son accord.
Oui.
C'est ça le plus gros point qui était en discussion et qui est demandé par une vaste majorité de la population.
Oui, oui, oui. Et puis, il y a le côté trouble mental aussi. Est-ce que c'est inclus ou bien c'est toujours exclu?
Non, pour l'instant, c'est tout à fait exclu. Les troubles de santé mentale sont différents des troubles neurocognitifs. Je vais vous donner juste une différence majeure.
Oui.
Dans les troubles neurocognitifs, type Alzheimer, Parkinson ou autre, il s'agit d'une pathologie organique. On connaît la cause, on connaît, tout au moins, on a une idée de la physiopathologie de l'évolution de ces maladies-là. Ce sont des pathologies physiques. C'est le cerveau qui est malade et qui donc s'exprime, comme le cerveau sait le faire, par des notions cognitives, si vous voulez, par des symptômes cognitifs. Alors que les pathologies de troubles de santé mentale, pour l'instant, et encore pour plusieurs années, on ignore complètement quelle en est l'étiologie, quelle en est la cause, et il s'agit vraiment de problématiques psychiques qui peuvent entraîner éventuellement des problématiques cognitives, mais à l'origine, ce sont des pathologies psychiques. Et pour l'instant, les associations de psychiatres, tant au Canada qu'au Québec, sont très partagées, pratiquement à 50-50.
Oui.
Quelles devraient être les balises? Comment est-ce qu'on pourrait organiser l'aide médicale à mourir? Selon quels critères on pourrait accepter un patient? Ceci ne veut pas dire que les médecins dont je suis, mais aussi les psychiatres, considèrent que les pathologies de santé mentale ne sont pas souffrantes. Au contraire, ce sont des pathologies très souffrante et peut-être plus qu'un certain nombre de pathologies physiques parce qu'on ne sait pas pourquoi le patient a cette souffrance intérieure.
Mmh.
Et donc, pour le moment, et selon la loi fédérale, selon le code criminel qui a été amendé au 17 mars 2021,
oui,
le gouvernement fédéral s'est donné jusqu'au 17 mars 2023 pour trouver des balises pour les problématiques de santé mentale. En d'autres termes, et pour faire court, actuellement, tous les problèmes de santé mentale, de troubles de santé mentale, sont exclus de l'aide médicale à mourir, mais les travaux se font tant au Québec qu'au Canada pour justement trouver une voie de passage pour ces patients qui demanderaient l'aide médicale à mourir, mais avec des balises, des critères très stricts et que tout le monde doit, sur lesquels, en tout cas, on peut avoir un certain consensus.
Oui. Pourquoi est-ce que... C'est une question que moi, je me pose souvent aussi. J'ai dit, pourquoi est-ce que les gouvernements sont si réticents par rapport à ce genre de situation?
Les gouvernements sont réticents, vous dites?
Oui, oui. Pourquoi les gouvernements tardent à...
Ben, en fait, je pense que si les gouvernements sont réticents, c'est parce que les gens de la santé, psychiatres et autres, médecins généralistes, sont eux-mêmes réticents. De même que les travailleurs de rue, les gens qui s'occupent de la santé communautaire.
Okay.
Tout le monde marche sur des œufs dans cette histoire-là.
Mm-hmm.
Surtout, on pourrait résumer en disant, comme disent nos collègues psychiatres, que la maladie psychiatrique amène d'elle-même un désir de mort, alors que si on peut contrôler la maladie psychiatrique, ou tout au moins la traiter, ou l'amener à un niveau, disons, un petit peu plus supérieur, ben peut-être que ce désir de mort pourrait être amenuisé. Donc, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Alors, je pense simplement que les gouvernements, pas tellement qu'ils sont frileux, je crois qu'ils suivent plutôt les lignes scientifiques médicales.
Comme vous l'avez dit, très bien résumé, tout le monde marche sur des œufs.
Oui, exactement.
Donc,
dans les problématiques de santé mentale.
Oui, oui. Et puis, bon, moi, quand j'ai vu ce rapport, et puis d'ailleurs, je vous voyais, on vous entendait un peu partout à la télé, à la radio, on vous voyait, je me suis dit, mais est-ce qu'il a le temps même de pratiquer encore à l'hôpital, à la clinique?
Non, non, en fait, moi, je suis retraité de la neurochirurgie. À 70 ans, il faut laisser ça aux plus jeunes.
Ah, bon, d'accord.
Comme disait la chanson. Mais par contre, j'évalue des patients et je pratique moi-même l'aide médicale à mourir, mais c'est ma seule activité clinique, si je puis dire, en plus de la présidence de l'association.
Oui.
Je ne fais plus de clinique parce qu'à un moment donné, il faut tout de même faut laisser ça à d'autres.
Ah ouais, parce que je sais que ça vous prend du temps, là. Toutes les négociations que vous, en tant que président, ça vous prend du temps avec vous et votre équipe.
C'est à temps plein.
Oui, c'est du travail, vraiment. Je me suis dit, mais il a le temps de repartir en clinique encore, là.
Oui.
Toute l'espérance. On va faire une petite pause musicale.
Merci beaucoup,
on vous revient.
Oui.
Merci.
Va t'amener au si silence pour entendre juste la murmurance de ta voix une fois. On va t'amener où il fait noir juste pour voir la petite brillance de dans tes yeux un feu. Y'a plein d'affaires qu'on dira pas. Y'en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit je m'aime. On va t'amener dans un désert, grand comme la mer, te voir courir à perdre l'horizon. Y'a plein d'affaires qu'on dira pas. Y'en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. Si ton cœur battra l'amour encore, y a plein d'affaires qu'on dira pas. Y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais.
Fred Pellerin, silence. Nous sommes très heureux d'avoir été entendus sur nos préconisations. Par exemple, le tiers de confiance chargé d'alerter l'équipe médicale que le moment souhaité par le patient. Voilà, pour bénéficier de l'aide médicale à mourir est arrivé. Ça, c'est une de vos citations, ça.
C'est une citation. Vous êtes gentil, mais en fait, c'est une des recommandations qui a été émise par le comité avec laquelle la grande majorité des médecins, des gens qui s'occupent de ça, c'est tout à fait d'accord.
Oui.
En d'autres termes, ça enlève le fardeau total de la décision à l'équipe traitante et ça enlève le fardeau total de la décision à la tierce personne. Donc, on partage le fardeau de la décision.
Est-ce que vous aimeriez que ça se passe le plus vite possible avant les élections prochaines?
C'est une excellente question.
Ouais. Ben, en fait, vous leur faites confiance? Vous leur faites confiance? C'est les politiciens qui vont aller plus vite, le plus tôt que possible, quoi. Ouais.
Ouais, ben moi, j'aimerais j'aimerais bien que le Québec se penche sur le rapport et qu'il fasse un projet de loi, éventuellement qu'une loi soit passée avant les élections de l'automne prochain au Québec.
Oui.
Maintenant, tout va dépendre, bien sûr, dans ça comme dans le reste de l'évolution de la pandémie. Mais ce serait, moi je trouve, et je fais un appel à M. Legault, je trouve que ce serait une très belle carte de visite pour les prochaines élections.
Oui.
Parce que la population est rendue là. Et puis, bon, maintenant, même si le Québec a un projet de loi, on va se retrouver avec la même discussion qu'en d'autres moments, à savoir l'adéquation avec le code criminel, avec la loi fédérale.
Avec la loi fédérale. Parce
qu'avec l'eau fédérale, ça ne serait pas permis. Maintenant, il est arrivé la même chose, rappelons-nous, en 2014, lorsque le Québec a voté sa loi et que le Canada était très loin de là. Ce n'est qu'après, lorsque la Cour suprême a donné son avis, que là, le Canada est obligé de bouger. Mais on pourrait se retrouver un peu, selon mes amis avocats que j'ai consultés, entre autres Maître Leroux, qui est avec nous à l'association, on pourrait se retrouver avec un espèce de vide juridique. La façon de s'en tirer, entre guillemets,
oui,
ce serait que les procureurs du Québec, du ministère de la Justice, décident, comme dans les cas de l'avortement il y a 40 ans, de dire, bon, ben, de toute façon, on ne poursuivra pas un médecin qui ferait de l'aide médicale à mourir chez un patient qui rencontrerait les critères de la loi du Québec. Ça pourrait être une des façons,
oui,
de s'en sortir. Je dois dire par ailleurs que M. Lametti, ministre fédéral de la Justice, a toujours été très à l'écoute lorsqu'il a fait les modifications de la loi en 2020 et 2021. Et je crois qu'il est aussi favorable, mais là, je ne parlerai pas pour lui, mais de toutes ses entrevues, de ses interventions, il est, je crois, favorable à une telle évolution de la loi.
Oui. Quelle est la position du Québec par rapport au reste du Canada, aux autres provinces, et puis par rapport au reste du monde, dans les autres pays occidentaux?
Ben, le Canada, on va inclure le Québec dans le Canada, là,
oui,
pour les fins de la discussion. Le Canada est quand même en avance et parmi les 5 à 6 pays dans le monde qui ont l'aide médicale à mourir.
Oui.
Il y en a de plus en plus, de plus en plus. Ça se compte encore sur les doigts des deux mains, là.
Oui.
Et les premiers pays, c'était ceux du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.
Oui.
Et par la suite, il y a eu quelques autres pays qui se sont joints dans les toutes dernières années, l'Espagne, l'Australie pour certaines provinces de l'Australie. Donc, il y a un certain nombre de pays maintenant qui ont des lois d'aide médicale à mourir. L'Autriche vient de passer une loi au Parlement.
Oui.
Et en général, les lois sont plus restrictives. Nous suivons passablement le modèle belge, donc avec une loi qui est précise, avec des bons critères, et qui fait pour le moment, en tout cas, qui sont relativement bien suivis par les médecins, et je dois dire qu'il fait l'affaire des patients. Bien sûr, il y a toujours la question des troubles de santé mentale, mais
Ça veut dire que du côté belge, même le trouble mental n'est pas ajouté, il est exclu?
Ben, le trouble de santé mentale, il y a eu quelques très rares cas en Belgique et aux Pays-Bas,
okay,
parce que c'est pas interdit dans leur loi. Mais encore là, on se retrouve avec des pourcentages extrêmement minimes.
Oui.
On parle de 2%, 1 à 2% des patients qui ont obtenu l'aide médicale à mourir qui avaient des problèmes de troubles de santé mentale. Donc, vous voyez que c'est très, très peu sur l'ensemble de la mortalité. Mais il va falloir y venir. Moi, je suis très confiant. Mais il faut, on peut pas faire grandir une fleur en tirant dessus. Il faut donner le temps à la population et aux législateurs de faire des lois avec lesquelles tout le monde va être confortable.
Oui, oui. Et pour les deux dernières minutes qui nous restent, au fait, quand vous rencontrez les politiciens, bon, quand vous allez les rencontrer sur le chemin de rencontre, vous dites, est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont prendre au sérieux ce que nous avons à leur dire?
Ben, l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant est très positive, je vais vous dire. Je suis pas politicien là du tout, moi.
Oui.
Mais l'expérience que j'ai eue, et je voudrais ici nommer particulièrement M. Luc Thériault, qui est député de la région de Trois-Rivières, là, de la région de Champlain, qui est au fédéral, au Bloc québécois, qui est extrêmement actif et très positif dans cette discussion-là. De même que le député Bordua, qui est dans la région du Bas-Saint-Laurent,
oui.
Qui lui aussi est très actif. Il y a plusieurs jeunes députés, et bien, jeunes et moins jeunes, plusieurs députés, tant au fédéral qu'au provincial, qui sont très très actifs et qui comprennent bien le questionnement de la population. Et on l'a vu, je dois dire, là, dans les entrevues et le fonctionnement du comité qui a, sur l'évolution de l'aide médicale à mourir.
Oui.
Ils ont été extrêmement attentifs. Moi, j'ai trouvé que les questions qui étaient posées étaient très pertinentes et
oui.
On voyait qu'ils connaissaient bien leur dossier pour la grande majorité d'entre eux.
Et qui a le droit de contacter même votre association, l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité? Tout citoyen?
Nous avons un site Internet qui est maintenant renouvelé parce que nous avons le plaisir d'avoir eu depuis un an une subvention gouvernementale.
Oui.
Et donc, n'importe qui peut nous appeler et puis on leur donne de l'information. Mais... Il y a beaucoup d'informations aussi sur notre site. Là,
oui, oui, oui. AQDMD.org. Org.
Exactement, vous avez tout compris.
Oui, oui. Ouais. Merci beaucoup à vous,
Dr.
Georges d'Espérance. Et puis, non, c'est moi qui vous remercie de votre temps et puis... Bonne année à vous et bonne fin de
semaine. De même à vous, bonne année, santé surtout, à vous et vos proches.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
I always see you. I love you. Always remember us this way.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, this way, lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome.
Lady Gaga, always remember us this way. Wow. C'est... Voilà, merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain. avec Myriam au sport.
Exactement.
On finit sur la saga Novakovic. Et merci à Stéphanie Baudry. Stéphane Baudry qui est venu nous parler de du parc régional de la Rivière du Nord. Stéphane, merci à toi. Et merci au docteur Georges de l'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, qui est venu nous parler. De ce rapport. En question, on dit bravo à lui et à son équipe. On attend ce que tout soit fait, tout soit inclus, y compris le trouble mental, bien sûr. On lui dit, voilà, bonne chance. Et puis bon, vous, chers auditeurs et auditrices, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et sur ce, je vous dis ciao.